Je suis Sébastien Joseph, directeur des programmes de Fun Radio, et vous écoutez All Stars. Dans ce podcast, nous rencontrons les artistes majeurs de la scène électro-française. Et pour cette deuxième saison, j'ai rencontré le DJ français Bob Sinclar. Ensemble, nous avons évoqué les moments marquants de sa carrière. Dans ce deuxième épisode, Bob Sinclar raconte l'explosion du courant musical de la French Touch et la genèse étonnante d'un de ses plus grands morceaux en collaboration avec la moitié des Daft Punk. Il nous dévoile ici la signification de son nom de scène, d'où vient-il et que représente-t-il. Vous saurez tout de Bob Sinclar. Comment on trouve son nom de DJ?
Moi, j'étais fan du film de Belmondo, Le Magnifique, et je cherchais un nom disco. Je cherchais un nom, même un petit peu ringard, tu vois. Et je voulais même pas me mettre en avant. Je pensais pas que le projet allait marcher. Donc, si ça marche pas, je me dis, je peux me laisser une porte de sortie. Je veux pas être identifié forcément au projet, tu vois. Donc, c'est ce que j'avais fait depuis le début avec tous mes albums et mes différents projets que j'avais produits sur Yellow. Et donc, j'invente ce personnage, Bob Sinclar, que j'imagine avec des moustaches, un peu à la Cérone. Donc, il y a un personnage entre Jean-Paul Belmondo dans le film Le Magnifique, qui joue le rôle d'un écrivain un peu raté, je dirais, qui donc vit à travers son personnage, lui aussi, Bob Sinclar. Donc, il vit dans un quartier de Paris, dans un petit studio, et il écrit ses bouquins. C'est des bouquins qui s'écrivent très, très vite pour que ça se vende aussi très, très vite, tu vois. Et puis, il vit à travers des prospectus, des catalogues. Il va chercher dans des agences de voyage. Voilà, il ne voyage jamais, mais son personnage voyage. Donc, je me suis dit, le parallèle qu'il peut y avoir entre moi, jeune Christophe Lefriant, dans sa chambre d'ado, qui rêve aussi de voyager et de jouer partout dans le monde. Donc, je dis, allez, tu vois, il y a des petites... c'est très intellectuel. Hein,
ouais, ça t'inspire. Ça. Son nom tout trouvé, il enchaîne les productions musicales.
Donc voilà, ouais. Début 98, je sors un troisième maxi qui s'appelle Ultimate Funk. Donc j'ai trois maxis. Donc parce que ces trois maxis, il y a un buzz énorme parce que je fais 4005, 5000, 6000 vinyles, ce qui correspond quand même à des très très grosses quantités. Et je dis quand même, faut que je réunisse ça dans un album. Donc vient à ce moment-là la Winter Music Conference à Miami, où dans l'avion, il y a Thomas Bangalter, Guy Manuel, Pedro Winter et tout, on ne se connaît pas, tu vois. Et eux, on dit « Ah, on aime bien ce que tu fais, ben, moi, je suis plus qu'admiratif de ce que tu fais. »
On est alors en 1998, Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem Christo forment le duo Daft Punk. À ce moment-là, ils ne sont pas encore les dieux vivants de l'électro.
Et eux ont entre leurs mains le maxi-vinyle de Stardust « Music Sounds Better With You ». Ils ont ça. Tu dis, bon, bah nous on a ça, on a une promo, bah nous Yellow on a des promos, bah parfois on va s'échanger les promos, etc. Et c'est important ce que je dis parce que dans l'avion, il a une platine de poche, il nous fait écouter ça dans l'avion et tout, c'est incroyable. Je lui dis, écoute, si tu veux, j'adore ce titre, si tu veux, on se donne rendez-vous dans la chambre, on discute un peu, tout ça. Donc arrivé à Miami, je ne me rappelle plus exactement tous les détails, mais il nous fait écouter ces promos dans la chambre et on découvre quand même que le morceau est assez incroyable. Quoi. La première fois qu'on écoute Stardust,
Music Sounds Better
With You. Sounds Better With You, ouais, on découvre, on dit putain, ça c'est quand même, c'est la première fois qu'on entendait un morceau chanté, une nouvelle mélodie, tu vois, un truc disco, chanté par un français, tu vois, c'était vraiment du bricolage aussi, hein, ils faisaient ça dans leur chambre. Et je lui dis comme ça, écoute, moi je te fais un remix pour Stardust, Music Sounds Better With You, et ben toi, si tu peux me faire un morceau pour mon album, on le fait ensemble, peut-être je t'envoie des samples, tout ça, on y va, toi. Il me dit ouais, ok, pas de problème. La Winter Music se passe. Le morceau Stardust devient le morceau de la Winter Music Conference. Je parle de mars 98. Et ça devient une bombe atomique. Voilà, ça devient le morceau qui a le plus gros buzz de toute l'année 98. Je pense qu'ils ont dû vendre, honnêtement, 250 000 vinyles. Lui, il te dira peut-être plus, mais c'est un carton énorme. Donc, à ce moment-là, on se revoit à la rentrée. Je lui donne quelques samples. Et puis, il m'appelle. Il me dit, écoute, j'ai fini un truc. Ça ne correspond pas tout à fait à ce que tu voulais. Mais viens écouter au studio. Bon, super, génial. Donc, c'est là où je découvre un peu là où il bossait. Alors, je te dis, c'était encore plus petit que chez moi. C'était vraiment, il y avait trois machines. Hein, trois machines, c'est comme avec ça qu'ils avaient fait Homework. Donc, lui, il me fait écouter un truc où il utilise un bout de sample que je lui avais donné, mais il me sort un truc totalement différent, où il sample Jane Fonda, etc., etc. Donc, il me fait écouter ça. C'était pas tout à fait fini. Et j'écoute ce truc-là. Je dis, putain, quand même, là, c'est... c'est assez bizarre ton truc, parce que faire chanter Jane Fonda, je trouve c'est presque un peu ringard, tu vois. Où ça faisait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. Et je lui dis, c'est un peu ringard ton truc. Il me dit, ouais, en effet, c'est un peu ringard. Bon, écoute, je vais quand même le prendre parce que je me souviens dire, j'imagine très bien Bob Sinclair, ce personnage que je viens d'inventer, jouer pendant les fitness sessions de Jane Fonda. Donc tout ça, c'est très très gay. Moi, je suis dans le marais, on parlera encore de l'influence marais, mais on est dans un projet totalement burlesque. Et il me sort le master, on fait un petit contrat, super, tac, tac, échange de procédés, je lui fais son remix, et bien, tout semble parfait. Je sors le vinyle, donc un double vinyle avec, je dirais, 8 titres dessus. Et là, en l'espace de 3 semaines, j'en vends 50 000 vinyles. Là, c'est carton absolu, grâce évidemment à Jim Tonic, bien sûr. Parce que tu ne peux trouver ce titre-là que sur l'album vinyle. D'accord ? Il était convenu avec Thomas que je ne le sorte pas en single. À ce moment-là, lui, il avait ses carrières, etc. Et je n'avais pas l'intention, de toute façon, de promouvoir son nom à travers, tu vois, c'était le morceau de Bob Sinclair, remixé par Thomas Bangalter. Et carton absolu, l'album... se licencie chez Warner, on en vend 350 000 dans le monde, et c'est un peu le début de quelque chose, d'une aventure extraordinaire.
Tu parles de Paradise, l'album.
Je parle de Paradise, ouais. Et donc, je fais 2 morceaux supplémentaires, My Only Love, et puis, je sais plus, 2-3 trucs. Donc, on sort un 14 titres, et l'album explose dans le monde entier, et c'est le début de... Je dis, ça sent bon, il y a un petit velouté quand même, là, 350 000 albums. 98, et j'ai dit, allez, on continue. Et là, je me lance dans une... surproduction, et je suis à fond dans le disco, dans les chanteurs, et c'est là où je commence à rencontrer des gens aussi incroyables, des musiciens, des producteurs.
Donc Jim Tonic, Paradise, là on achète un studio, on continue à travailler dans sa chambre.
Waouh, là comment je bricole. Je tu sais que Paradise, je le travaille de la même façon que mes anciens titres, hein, donc avec toujours mon Akai, mon sampler Atari. Ensuite, à la suite de l'album, je fais I Feel For You, et c'est là où je rencontre Cérone pour la première fois.
Marc Cérone est l'emblématique représentant du disco en France, mais aussi aux États-Unis. Il a enchaîné les tubes dans les plus grands clubs. Sa musique a influencé de nombreux artistes.
Donc ça, c'est 99. Et là, je sample et je commence à clearer les samples, donc à demander les autorisations. Parce qu'au départ, on a eu un petit problème aussi sur Jane Fonda et sur le morceau de Thomas. C'est qu'on n'avait pas clearé. Donc on a compris quand même qu'il fallait clearer. Et donc, j'appelle Cérone. Et je tombe sur son fils qui, à l'époque, doit avoir 18 ans. Tu vois. Et je lui dis bonjour, Bob Sinclair à l'appareil. Il me dit ah ouais, j'ai entendu parler de toi, tout ça, parce que l'album commençait à buzzer, le Paradise avait bien marché. Et je dis écoute, j'ai samplé un truc de ton père. Il commençait à s'occuper un peu des affaires de son père. Et je lui dis est-ce que ça vous branche de faire une petite collab et tout ? J'ai une chanson qui est écrite, etc. Et voilà, il me dit ah écoute, viens nous faire écouter ça à Los Angeles. Donc lui habitait Los Angeles, donc je prends un avion. Et je vois et je rencontre Cérone chez lui, dans sa baraque. Lui, il était en pré-retraite hein, déjà, parce qu'à cette époque, son catalogue ne valait plus rien. Tout le monde le samplait, mais il ne le savait pas. Et il me dit, écoute, ouais, j'adore. Donc, on fait un deal, super. Et il me dit, écoute, j'ai une chanteuse avec qui je fais des maquettes, moi aussi, parce qu'il refaisait un petit peu de musique. Et il dit, tiens, bah, utilise-la pour le morceau, ça va marcher. Donc, il me prête son studio et tout ça, tout à la bonne franquette. Il n'y a toujours pas d'argent. Il n'y a pas cette relation nocive d'argent qu'il peut y avoir aujourd'hui, par exemple. Et ce qui est plutôt sain. Mais quand même du business où on partage les droits, etc. Un truc très cool. Et je sors le morceau. Et puis là, je me souviens, hein, c'était Winter Music Conference 1999.
La Winter Music Conference, c'est LE rendez-vous à ne pas manquer pour tout DJ souhaitant promouvoir sa musique. L'événement a lieu chaque année dans tous les bars et clubs de Miami. Producteurs, artistes et managers y sont présents. Et se rencontre.
Et là, je le sors en vinyle, toujours. C'est toujours la stratégie de sortir en vinyle les morceaux avant la Winter Music Conference. La WMC est le point de rencontre, puisqu'on s'échange les vinyles. C'est la seule façon pour nous de faire de la promo à ce moment-là. Il n'y avait pas Internet, hein, de pouvoir distribuer les promos et que le buzz commence là. Là, je me souviendrai toute ma vie aussi, c'est que j'arrive à Miami et Eric Morillo, qui est à l'époque donc, patron du label Subliminal, qui commence à sortir aussi des vinyles sur son label à New York, qui lui a sorti I Like to Move It, Move It en 80, je dirais, 94. Donc il est déjà un poids lourd sur le label Strictly Rhythm à New York. J'arrive dans le club et lui joue ce disque-là. Il joue mon disque. Donc tu vois, quand là, c'est. là c'est le plus gros DJ du moment, il joue mon disque.
Donc I, tu feel, vois,
I feel for you. Donc là, le morceau est licencié par Defected. Defected, label anglais, qui existe toujours, qui cartonne aujourd'hui, toujours encore. Et licencié chez Subliminal à New York. Donc voilà, la consécration. Je dis, bon, là, ça y est, on peut mourir tranquille. Tu vois. L'été qui suit, donc le morceau sort en Angleterre. On fait mon premier top 10, numéro 9. Donc on en vend 250 000, je crois. Donc là, je te parle de chiffres qui n'existent même plus aujourd'hui. Celui qui vend 250 000 singles aujourd'hui, il arrête de bosser. À l'époque, donc on vend des vinyles, tout ça. Gros buzz en Angleterre. Je sors l'album... Champs-Élysées avec Sabre Soul, tout ça, des morceaux qui sont cultes aujourd'hui, tu vois, qu'on me redemande et que je continue à jouer aujourd'hui. Et voilà, et l'aventure continue, hein, c'est vraiment, là c'est l'éclate, hein, parce que là je commence à tourner dans le monde entier. 99-2000, là c'est là où, alors je vais même aller plus loin, là je dirais 99, j'ai les royalties de l'album Paradise, donc là ça commence à générer des droits. Donc, c'est-à-dire que, pour juste te donner, c'est qu'à partir de 92 à 99, je ne gagne quasiment pas ma vie. Tu vois ? Mais c'est pas grave. Je bricole. Voilà. Si ça fait 3 sous, 3 balles, je suis content, je m'en fous, je vis un moment, là. Non, mais sur le moment, on s'en rend pas compte, mais c'est 5 ans, là. 95-2000, 5 ans de French Touch. Alors, en même temps, il y a Cassius qui explose. Il y a Superfunk. Je crois que Mojo Lady sort en 2000, donc ils sont pas vraiment inclus encore ça, mais c'est vraiment la fin. Pour moi, c'est le morceau qui marque la fin de la French Touch. Bon, j'en oublie plein, hein, mais il y a plein de morceaux qui explosent sur ce son-là. Donc tu sens que, bon, voilà, on est hyper fiers.
Vous venez d'écouter le deuxième épisode du podcast All Stars consacré à Bob Sinclar. Dans le prochain, nous vous dévoilerons comment le DJ a donné un nouveau souffle à la scène électro avec son projet Africanisme. Bob Sinclar nous parlera de ses rencontres avec DJ Grégory, Martin Solveig mais aussi David Guetta et il reviendra sur ses premières résidences à Ibiza. Retrouvez All Stars sur funradio.fr et sur vos applications de podcast favorites. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles.